Lady qui disent Dan Sylvestre, qui décrit des mots qu'elle aime bien. Voilà, tout simplement. Et j'ai utilisé pour ceci une musique super pour danser sur de la trance de Philippe Glass qui s'appelle Glass Pieces et c'est la numéro 8 qui dure 8 minutes et c'est top, top, top. Voilà, et toi, Julie?
Une petite série d'un inventaire des destructions d'œuvres d'art recueillie par Éric Vattier. Donc des destructions qu'il donc là c'est une seconde édition et qui a commencé en 1999, des personnes, des artistes qui ont laissé leurs œuvres sur le trottoir lors d'un déménagement, qui se sont fait chaparder leurs œuvres pour différentes raisons, des destructions à cause d'un incendie, à cause d'un truc qui s'est envolé, d'un truc perdu. Et c'est aux éditions Un Certain Sens et je remercie le cabinet du livre d'artiste de m'avoir fait découvrir cette pépite. Dans la série qui fait peur, parce que des fois on parle d'amour et de choses douces, mais il y a aussi les contes fantastiques de Guy de Maupassant, les classiques pour ceux qui ne les auraient pas encore lus au collège, lycée, comme moi je l'avais pas fait non plus.
L'amour fait peur, Julie.
De quoi? L'amour aussi fait peur, mais moins qu'une main coupée qui coupe des têtes quand même. Donc faut pas avoir trop peur de l'amour. Voilà.
Voilà, moi j'ai lu quelques extraits d'un recueil de poésie de Raymond Carver. Voilà, pour moi c'est aussi une découverte. Donc je sais pas, un petit Bukowski placé en plein milieu avec une bande son de Youm, Everywhere Home. On avait aussi Robbie, On ne meurt plus d'amour. Mais on avait aussi une invitée, Julie. Je crois que tu peux
en
dire plus.
Juste un autre bouquin que j'ai lu aussi.
Elle a invité un bouquin.
Terminé. L'invité était l'auteur Richard Wright avec Black Boy, et qui cherche du coup où se sentir libre d'être et d'être tous acceptés tels qu'on est, sans ségrégation. Et l'invité que nous avions, c'est Alina. Qui nous a lu ses propres écrits et en fait sont des écrits un petit peu de tous les moments de vie, des petites réflexions, des choses décalées et qui sont donc là, elle nous les a traduits. Elle écrit principalement en anglais, en roumain, son pays d'origine. Et donc là, pour qu'on ait un peu plus accès à ces images, elle nous a fait le plaisir de nous les lire en français. C'est souvent en lien autrement avec son travail de photographie, de plein de détails et de mise en scène de la vie quotidienne pour réenchanter des petites choses qui se passent autour de nous et qui font qu'on est en lien avec les autres. Et voilà. Pour terminer, une chanson encore, Nicolas Cruz,
Danza de Vivion.
Et on vous laisse avec le Canu Info. À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Ciao,
ciao. Thank you.
cravate sous le menton. Qu'importe les traces laissées par terre, je sais comment. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Ça fait longtemps. Vous êtes bien sur Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi 12 novembre. Aujourd'hui, on va vous parler d'abord à l'international du Brésil, où Bolsonaro va extrader Battisti vers l'Italie. Ensuite, on parlera de la caravane de migrants qui est partie du Honduras pour rejoindre la frontière américaine. On partira après en Guinée pour parler des violences policières. Avant d'aller au Yémen, pour parler de la famine, et puis du président de la Centrafrique. Au national, on donnera des nouvelles de la grève du parc Hayat, qui dure depuis déjà 45 jours. Puis on parlera du dernier hommage de Macron à Pétain, puis des licenciements de Ryanair. Puis un petit retour sur le procès des 7 de Briançon, pour finir au national avec l'annonce du nouveau site de Bure, en tout cas des opposants au projet à Bure. Ouais. Et un petit sujet au local, l'histoire d'un facteur agressé par les flics en juin et qui passe en procès bientôt.
Voilà, donc on commence par l'international, donc, et on va aller en direction du Brésil, mais aussi de l'Italie. Vous allez comprendre pourquoi, puisque donc Bolsonaro compte extrader Cesare Battisti. Alors, qui est Cesare Battisti ? Aujourd'hui, c'est un écrivain, un très bon écrivain, hein, des polars, des romans, beaucoup. Et son grand tort, c'est d'avoir été un ancien militant d'un groupe communiste italien dans les années 70, qui s'appelait les PAC, les Prolétaires Armés pour le Communisme. Ce groupe a été fondé en 1976 et dissous en 1979. Et il faisait partie, comme beaucoup d'autres, hein, de l'opéraïsme italien, c'est-à-dire un courant ouvriériste, marxiste, autonome, donc en Italie dans les années 70. Alors, plus faible en nombre de militants que les fameuses Brigades Rouges, ce groupe était également beaucoup moins hiérarchisé. Par exemple, hein, chaque noyau pouvait se constituer indépendamment des autres noyaux, tout en pouvant se revendiquer des PAC. Donc c'était beaucoup plus horizontal. Leurs principales actions ont été, sur ces 4 années d'existence, beaucoup de braquages, d'expropriations, de banques, de supermarchés, des attaques sur des patrons ou des cadres maltraitant leurs employés, des attaques sur des matons violents, etc. On leur reproche 4 homicides qu'ils ont organisés, notamment un ancien gardien de prison qui aurait tabassé un détenu membre des PAC, un membre du parti néofasciste MSI, le mouvement social italien, ou encore un flic accusé d'avoir torturé des prisonniers. Bref, que des belles raclures. Alors, le 26 juin 1979, Cesare Battisti est interpellé et on lui colle les assassinats du flic et du maton sur simple témoignage de ces grosses poucaves de repentis. Alors, il prend 13 ans ferme, d'abord. Dès le début, Battisti clame son innocence tout en ne niant pas sa participation au PAC. Hein, il précise qu'il abandonne d'ailleurs la lutte armée à partir de 1978 suite à l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. Le 4 octobre 81, des anciens du PAC, des potes à lui, organisent son évasion de la tôle de Frosinone. Il rejoint la France et part ensuite au Mexique. Il y reste 9 ans. En 1988, il est condamné par contumace à perpétuité, à nouveau pour le double meurtre que j'ai déjà cité, mais aussi pour complicité d'assassinat sur les deux autres meurtres des PAC, toujours à cause d'un repenti. Donc il est condamné à perpétuité. Cette condamnation est confirmée en 1990, puis en 1993 par des cours d'assises d'appel de Milan. À chaque procès, aucune preuve matérielle, y compris les analyses balistiques, n'incrimine directement Battisti. Et plusieurs irrégularités apparaissent systématiquement. En 1990, Battisti revient en France, en comptant sur la doctrine Mitterrand. Vous savez, cette doctrine qui promettait donc de ne pas extrader les anciens activistes italiens ayant coupé les ponts avec la lutte armée, ce qui est le cas de Battisti. Il publie alors ses premiers romans. Pendant 15 ans, l'Italie ne va cesser de demander son extradition. En 2004, grâce à un certain Jacques Chirac et à un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, les keufs de la Direction nationale antiterroriste l'interpellent chez lui, le placent en garde à vue, puis l'assignent à résidence et le mettent sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, pour la petite info, il fera son contrôle judiciaire chez une certaine Fred Vargas. Le 30 juin 2004, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris valide son extradition, voilà, en revenant donc complètement sur la doctrine Mitterrand, hein, et ouais, c'est Chirac et c'est Sarko, décision donc confirmée par Chirac lui-même. En août 2004, Battisti retourne à la clandestinité et s'enfuit au Brésil, où il est arrêté en 2007 pour être extradé vers l'Italie. Mais en décembre 2010, le président Lula, juste avant son extradition potentielle, eh bien, annonce son refus de l'extradition. La classe politique italienne s'insurge, hein, droite, gauche, tout le monde menace, sanctionne, mais Lula tient bon. En juin 2011, Battisti donc sort de prison et vit depuis donc au Brésil. En octobre 2017, sentant l'étau se resserrer sur sa personne, il tente de passer clandestinement en Bolivie, mais se fait interpeller et est remis en liberté. Sauf que maintenant au Brésil, vous le savez si vous nous écoutez régulièrement, et même si vous regardez un peu Internet et vous écoutez les informations, c'est donc l'extrême droite au pouvoir avec un Jair Bolsonaro profondément anticommuniste. En 2016 par exemple, il déclare à propos de la junte militaire donc de 1964 à 1985 au Brésil, l'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer, ou encore que non seulement la traque à mort des communistes était une bonne chose, mais que la junte militaire aurait dû en tuer plus. Donc, vous voyez, il adore les communistes. Pour lui, la décision de Lula est insupportable. C'est le symbole de la dégénérescence du Parti des Travailleurs. Avec cette extradition, il compte montrer sa poigne et sa volonté de changer la situation politique au Brésil. Lundi dernier, donc, la Cour suprême a reçu une demande d'extradition par la procureure générale du Brésil, qui est une alliée de Bolsonaro. Battisti, lui, comptait sur l'indépendance de la justice brésilienne pour éviter la catastrophe, mais on s'en doutait, Bolsonaro et la séparation des pouvoirs, ça marche pas très bien, hein. Et puis, entre fachos, autant s'entraider, puisque Salvini a immédiatement salué la victoire de Bolsonaro aux élections. Et les deux hommes sont bien bien potes, hein, ils se sont échangés plusieurs fois sur Internet, hein, ils ont fait leur louange réciproque. Donc l'extradition de Battisti et son incarcération à perpétuité, puisque c'est ça qui lui pend au nez, permettrait à Salvini de mettre fin à 14 ans de cavale, puisque son extradition a été validée en France en 2004 et que depuis, il était donc en cavale. Il l'est encore, malheureusement, probablement plus pour longtemps. Donc, bon courage à lui, puisque ce qu'il attend, effectivement, donc, c'est la prison à perpétuité en Italie. Le pauvre.
On va enchaîner maintenant avec le Mexique, puisque c'est là que sont les milliers de personnes qui, depuis le 13 octobre, marchent depuis le Honduras pour rejoindre les États-Unis. Et ils ont atteint Mexico il y a 2 jours. Ils se sont remis en marche depuis. Donc ils fuient un pays violent où ils vivent dans la misère. Le Honduras a en effet un taux d'homicide de 43 pour 100 000 et 7 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui est décrit dans les médias comme une caravane s'est formé dans les appels, par des appels sur les réseaux sociaux. L'idée étant d'être plus fort lors du trajet et de ne pas rester vulnérable pour traverser le Guatemala et le Mexique. Bref, ne pas se faire racketter ou séquestrer sur la route. On trouve en effet de temps en temps des cadavres de migrants au Guatemala et au Mexique et ces morts sont attribuées au cartel. Et puis, l'idée, c'est aussi d'être plus facilement repérable par les ONG ou toute autre personne souhaitant apporter de l'aide ou de la nourriture. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce principe de caravane en Amérique du Sud, mais il n'a jamais atteint de telles proportions. Cette fois-ci, on parle de 4000 à 7000 personnes, auxquelles 2000 personnes ont pris la route, auxquelles 2000 personnes qui ont pris la route fin octobre espèrent s'ajouter. Et pourtant, les caravanes précédentes n'ont pas été forcément de franc succès. En mars dernier, sur 1500 personnes parties du sud du Mexique, seules environ 200 ont pu déposer seulement une demande d'asile aux États-Unis. Pour la caravane dont il est question ici, il y a bien eu une tentative du Mexique de stopper les migrants à la frontière avec le Guatemala par le biais de tirs lacrymogènes. Mais apparemment, pour les arrêter, il aurait fallu tirer à balles réelles dans une foule de femmes, d'hommes et d'enfants. Et pour la deuxième caravane, d'ailleurs, la deuxième de 2000 personnes, il y a eu un mort sur le pont. Le trajet semble dur. Certains ont rebroussé chemin et d'autres tentent de s'arrêter au Mexique, qui reçoit déjà des demandes d'asile. Et la différence avec les autres caravanes, c'est que la médiatisation et le nombre de personnes qui constituent cette caravane forcent à la prendre en compte. Malheureusement, mais sans surprise, l'accueil aux États-Unis prévoit de se faire dans la violence. Trump est en effet dans une surenchère hallucinante. D'abord dans les mots, il n'hésite pas à affirmer gratuitement qu'il y aurait des inconnus du Moyen-Orient, donc dans cette caravane qui, je le rappelle, part du Honduras, ce qui dans sa bouche est un synonyme de terroriste, tout simplement. Puis il a déclaré vouloir couper les aides financières que les États-Unis versent au Guatemala, au Salvador et au Honduras pour les punir, ne pas s'en prendre assez efficacement à ces milliers de personnes qui fuient une vie qu'ils ne supportent plus et pour punir ces pays de ne pas assez bien servir de barrière répressive aux États-Unis. Et puis surtout, ils s'organisent militairement. Il y avait déjà plus de 2000 membres de la garde nationale mobilisés en permanence à la frontière américaine pour empêcher tous les indésirables d'entrer aux États-Unis. Et ce sont plus de 5000 soldats de l'armée américaine qui se sont ajoutés à ces gardes pour accueillir la caravane. Je vous propose, pour voir un peu l'ambiance, d'écouter l'ancien commissaire de police de Fort Hancock à la frontière pour voir ce que lui, il a à dire.
Je ne sais pas si vous avez vu à la télé ce que les migrants ont fait en traversant la frontière du Guatemala au Mexique. Ils ont bousculé la police. J'espère que s'ils nous jettent des pierres, on leur tirera dessus. Moi, je veux qu'on construise ce mur et qu'on les jette de l'autre côté.
Voilà pour l'ambiance et la façon dont certains espèrent que les membres de la caravane vont être accueillis. A priori, les soldats n'auront pas vraiment ordre de tirer à vue sur quiconque essaiera de passer la frontière, mais plutôt de parquer tous les arrivants dans des camps pour les contrôler et les renvoyer rapidement après rejet de leur demande d'asile. Mais les incidents où des migrants tentant de passer la frontière sont abattus, ça arrive souvent aux États-Unis. Et puis, a priori, une fois arrivés à la frontière, ceux qui espèrent la passer risquent d'avoir très peu de marge de manœuvre. Donc soit ils seront parqués dans des tentes et devront s'en remettre à la clémence des États-Unis, soit ils essaieront de traverser la frontière avec le risque de se faire tuer, parce que ça arrive fréquemment. Et même s'ils réussissent à passer, ils ne pourront pas demander l'asile. Et oui, car il est sur le point de ne plus être possible de demander l'asile aux États-Unis si on est entré illégalement. Et donc il faudra faire la demande à la frontière ou ne pas pouvoir en faire du tout et accepter d'être clandestin toute sa vie aux États-Unis. Ça, c'est donc la dernière mesure de Trump pour accueillir ses caravanes. Et pour rappel, il avait déjà supprimé le DACA, qui est un programme de protection des immigrés entrés illégalement aux États-Unis en étant mineurs et qui interdisait leur expulsion, même à l'âge adulte. Aux États-Unis, donc, sur les réseaux sociaux, pullulent de fausses informations, comme des images de policiers mexicains en sang, avec un texte mensonger attribuant ses blessures aux migrants, alors qu'en fait, les images datent de 2012, lors d'une manifestation étudiante. Mais la palme du mauvais goût est attribuée à Fox News, qui a réalisé un reportage filmé à la façon d'un reportage animalier, à la frontière, du côté américain. Un présentateur chuchote dans des buissons et nous décrit l'arrivée d'un groupe de personnes sur une barque gonflable. Personnes qui sont donc arrivées en petits groupes et non pas avec la caravane qui est encore loin. Une fois qu'ils ont traversé, il finit par aller les harceler avec caméra et micro pour leur demander en boucle s'ils sont au courant qu'ils sont illégaux et pourquoi ils persistent à vouloir venir aux États-Unis. Les personnes, évidemment, ne répondent que très peu, prises au dépourvu et clairement pas dans les meilleures conditions pour répondre à une interview. Encore une fois, je vais vous passer un petit extrait en anglais, mais l'ambiance documentaire animalier est tellement hallucinante que ça vaut le coup de l'entendre.
We've been hiding in the bushes, waiting to witness one of these crossings. Let's go, they're coming right now. You can see they've come in, they've got a family in a raft.
Were you trying to cross into America illegally?
Voilà, donc là, il parlait bien d'êtres humains quand il les observait depuis la forêt. Bref, ça ne s'arrange pas aux États-Unis et il reste encore 1800 km à parcourir aux membres de cette caravane pour découvrir ce que les États-Unis leur réservent. On va passer maintenant à la Guinée.
D'accord, des États-Unis, on va traverser l'océan Atlantique pour atterrir en Guinée, dans le pays d'Alpha Condé. Là-bas, la population vit dans une prison, à ciel ouvert. Tout est permis sauf le droit de manifester. Et pourtant, le président est devenu président suite à de nombreuses manifestations qui ont conduit l'armée à céder le pouvoir aux civils, désirer gouverner le pays selon le principe de la démocratie. Or, le président Condé et son premier ministre, dans l'instauration de l'autorité de l'État, interdit toute manifestation dans le pays. Au moment où toutes les couches sociales veulent descendre dans la rue pour dénoncer l'incompétence, l'inconscience de ses gouvernants, manifester contre notamment l'insécurité, l'injustice qui est aujourd'hui dans le pays. La corruption, l'arrestissement illégal du gouvernement Condé. Un gouvernement qui vend la terreur, la peur, la haine à ses concitoyens. On sait, au lendemain de cette manifestation, la liste des victimes s'alourdit. Aujourd'hui, jusqu'au mois d'octobre, le nombre de morts par balle tués par la police pendant les manifestations, on comptait 94 jeunes tués par les hommes qui sont censés les sécuriser, les protéger. Aujourd'hui, la liste atteint 101 jeunes tués par la police guinéenne. La justice, elle garde le silence. Pour le moment, c'est la loi du plus fort qui règne dans ce pays. Ce que je ne comprends pas, c'est le silence des organisations sous-régionales. Régionales, je vais même parler de la CEDEAO, de l'Union africaine, pourquoi pas des Nations unies, face à ces crimes à répétition dans ce pays. Ce qui s'est passé la semaine dernière en Guinée, c'est inacceptable, c'est inadmissible, parce que c'est un crime contre l'humanité. Quand des hommes de maintien d'ordre arrivent nuitement dans un quartier, arrasent des portes, réveillent des pères et des mères de famille avec leurs enfants, les bastonnent, tout le monde, blessent certaines, saccagent et dépouillent les biens de pauvres citoyens, et tuent et tirent certains jeunes parce qu'ils pourraient appartenir à un parti politique ou notamment ils pourraient appartenir à un groupe social, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Pour des pays qui se disent démocratiques, des institutions qui se disent défendeurs des droits de l'homme, continuer à coopérer, subventionner un gouvernement antidémocratique, un gouvernement qui massacre sa population, il faut le dire, sans un jeune tué par balle. Depuis la première victime de 2012 jusqu'à celle de novembre dernier, le gouvernement n'a ni tenu la moindre compassion, ni une indignation, encore moins une enquête pour identifier le coupable. La Guinée, aujourd'hui, reste un territoire où règne l'anarchie, car les lois de la République sont violées par les plus hauts commis de l'État. Il faut le dire, il faut le souligner. Il faut le dire parce que, tout simplement, ces jeunes qui sortent, ils sortent pour manifester contre l'insécurité qui règne. Ils manifestent contre, disons, les promesses non tenues des gouvernants. Aujourd'hui, le président est dans son projet de troisième mandat, il faut le dire. Donc, si aujourd'hui, on confine des opposants, on essaye de tenter à la vie d'un opposant, le principal opposant du pays, je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas rester sous le silence. La prison commence... Quand on nous prive la liberté d'extérioriser notre mécontentement ou notre désaccord. Il faut le dire aussi, gouverner ou vouloir diriger un pays, c'est anticiper, écouter, planifier, prévoir, gérer et contrôler, dialoguer et surtout respecter les engagements. Et non tuer. tirer, massacrer, stigmatiser l'autre parce qu'il est en désaccord avec vous. La démocratie, c'est la confrontation des idées et non la confrontation physique. Le silence, il faut le dire, devant le crime, on devient complice. Et l'État guinéen est complice et aujourd'hui, on peut le dire, l'histoire retiendra, c'est un gouvernement qui a massacré sa population parce qu'elle, elle a décidé de demander à l'État de respecter ses engagements.
D'accord, donc c'est pas tout à fait le règne de l'anarchie, parce que ça serait plutôt dans nos rêves, mais...
Non, nous, c'est comme ça, on peut voir. Non, oui, je comprends.
C'est une expression qui, disons, quand t'as des anarchistes autour de toi, enfin, c'est pas mon cas, mais...
comprenons-nous.
C'est le cas de certaines personnes.
Voilà, ouais. Tu vois, ça passe mal, quoi. Bon, voilà, c'est tout.
Oui, mais... accepte.
Enchaîner, pour parler pas du tout de l'anarchie, mais de la famine au Yémen.
Tout à fait, on va partir de la Guinée, on va aller au Yémen. Le Yémen, en fait, il est actuellement soumis à une guerre depuis 2015 qui a fait près de 10 000 morts. Et ce conflit-là, en fait, il oppose les rebelles houthistes, soutenus par l'Iran, qui contrôlent le port de Hodeïda, ainsi que la capitale yéménite Sanaa, à une coalition arabe sous le commandement de saoudien, qui défend le gouvernement réfugié à Aden. La situation humanitaire au Yémen est devenue la pire au monde à cause de ce conflit qui sévit dans le pays depuis plus de 3 ans et qui fait qu'environ 75% de la population ont besoin d'aide et de protection. Et la situation d'insécurité alimentaire s'aggrave de jour en jour. 8 millions environ de personnes dépendent actuellement d'un apport en nourriture d'urgence. Ce pays est en détresse absolue et le blocus de l'Arabie Saoudite n'arrange pas les choses, il empire la situation. Les grandes ONG devraient augmenter en effet leur apport au Yémen, car la famine pourrait faire des milliers et des milliers de victimes. Déjà actuellement, un enfant meurt tous les 10 minutes à cause de la crise humanitaire au Yémen.
Oui, il semble qu'il est estimé que c'est la plus grosse famine que l'humanité aurait connue.
Tout à fait, tout à fait.
D'arriver là maintenant.
Depuis le Moyen-Âge, oui, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Et ensuite, on va parler de la Centrafrique, un sujet dont on parle régulièrement au Cagnon Info du lundi.
Tout à fait. Maintenant, nous allons repartir du Yémen. On va enchaîner à l'interview du président Touadéra, le président de la Centrafrique. En effet, le président Touadéra a répondu à la sortie du 17e sommet de la francophonie aux questions du journaliste Christophe Boisbouvier le 11 octobre dernier. En plaidant en fait comme un gamin avec ces mots « N'oubliez pas la Centrafrique » pour un soutien politique et financier de la communauté internationale à son pays, sans montrer un programme réel mis en place. Il s'est aussi exprimé sur la présence des Russes à Bangui et sur sa querelle présumée avec le président de l'Assemblée, Karim Mekaswa. Selon RFI, à la question du journaliste Christophe Boisbouvier, dans lequel il dit « Dans votre discours, vous avez dit que les 14 groupes armés accepteraient d'entrer dans ce dialogue avec l'Union africaine. Êtes-vous sûr de leur bonne foi? Ne craignez pas qu'ils aient un double langage, comme il y a beaucoup eu dans le passé ?» Et Touadéra lui a répondu qu'il y a eu des réunions préliminaires avec le panel où tous les groupes ont participé. Et il espère, comme le journaliste dit, que c'est la dernière fois qu'ils auront à aller véritablement vers la paix et que ses compatriotes doivent comprendre que le peuple centrafricain a beaucoup souffert et qu'il est temps que qu'ils puissent tous aller autour de la table pour que la paix revienne définitivement. Il espère aussi que cette fois-ci, c'est la bonne, comme il a mentionné. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués et espère que ce sera la dernière fois. Il invite aussi les compatriotes des groupes manqués et il espère que les groupes armés entendront raison. Et il appelle les groupes armés à pouvoir se retrouver pour qu'il y ait la paix une bonne fois pour toutes. Toutefois, Touadéra a répondu sans aucun programme de processus de paix fiable, avec un recul sur ce qui a manqué aux réunions antérieures et ce qui retarde véritablement le processus de la paix en Centrafrique entre les groupes armés. Il se contente en effet de se plaindre comme un gamin et d'appeler à l'aide comme une personne ayant une attitude d'enfant. Comment peut-il diriger la Centrafrique avec cette manière, ce comportement-là? Il a utilisé les mêmes et éternels mots et méthodes, sachant qu'avec cela, il y aura toujours des réunions manquées, car les groupes armés ne répondront pas ou jamais à l'appel pour le retour de la paix dans ces conditions-là. De plus, pour couronner le tout, il a réussi à destituer le président de l'Assemblée nationale, Mekaswa, le 26 octobre dernier, ce qui n'a pas rangé les choses. Et ce qui fait que ça a encore ravivé la tension entre les communautés musulmanes et centrafricaines. Ce qui a entraîné le jour même de la destitution, il y a eu des tirs dans le quartier Kilomètre 5 à Bangui, à la capitale. Et s'en est suivi des regains de violence dans l'arrière-pays, notamment le 31 octobre à Bambari, où la ville a eu des théâtres de violence. Et également à Bambari, où il y a eu des affrontements entre les groupes armés ayant entraîné des incendies de 3 camps de déplacés internes. Et plus de 10 000 personnes se sont réfugiées dans l'enceinte de l'hôpital, d'un hôpital soutenu par le MSF. Tandis que plusieurs centaines d'autres personnes se sont enfuies en brousse. Et MSF a reçu en fait une vingtaine de blessés, dont 10 nécessitaient une opération d'urgence. 2 d'entre eux ont malheureusement décédé à l'hôpital de Bantangafo suite à ces brûlures. Cette flambée de violence a encore affaibli davantage les communautés déplacées qui déjà étaient dans une extrême précarité et qui aujourd'hui manquent de nourriture, d'abri et d'autres biens de base ainsi que de protection. Mais Monsieur Touadéra, étant invité hier à Paris pour concernant l'anniversaire de l'armistice par Macron, est-ce qu'il pense vraiment au conflit qui se passe en République centrafricaine, je voudrais dire. Non, ne serait-il pas en train de se moquer de la Centrafrique et du peuple centrafricain pendant qu'il est là en train de boire son vin et de manger son caviar? Beaucoup de Centrafricains risquent de perdre leur vie dans un éventuel regain de violence. Mais est-ce qu'il changera un jour notre Touadéra? Espérons. Dans tous les cas, nous aimerions aussi aujourd'hui dénoncer les mauvaises pratiques qui se passent actuellement sur Facebook concernant des menaces et intimidations par les fanatiques politiques de Touadéra. Une de nos collègues a reçu des menaces par Facebook par rapport à ses déclarations, par rapport à la mauvaise gérance de Touadéra sur le plan politique et par rapport au retour de la paix en Centrafrique. Et nous voulons dénoncer cela et nous continuerons toujours à dénoncer ce mauvais comportement tant qu'il n'y aura pas la paix et la justice véritablement en Centrafrique, parce que le peuple a assez souffert. Merci.
Merci. Alors, on ne vous en parle pas aujourd'hui, mais la destruction de la plaine à Marseille, c'est toujours d'actualité. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va écouter les fracas de la plaine de Y-Star.
Quoi, combien de café déjà?
C'est donné, mon ami. C'est donné, Maury.
Tiens, Léa, à tout à l'heure. Je reviens avec lui. Je fais un tour. Voilà. C'est un tour de plaine.
Ouais. Voilà. Bonne journée, la famille.
Les fracas de la plaine, des oiseaux de malheur qui te disent à la tienne à n'importe quelle heure. Ils ont eu de la veine, ils n'ont jamais eu peur. Ils rêvent sous Tranxène que le monde est meilleur. Fracas de la plaine, des oiseaux de passage qui te disent à la tienne, même s'ils ont la rage. Pour la coupe est pleine, avant le troisième âge, il faut noyer sa peine quand arrive l'orage. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les fracas de la plaine, des oiseaux migrateurs qui te disent à la tienne, même sous l'équateur. Y'en a eu à Cayenne, enfermés par erreur. Y'en a même à Phnom Penh et toujours en sueur. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les fracas de la plaine, des oiseaux mazoutés qui te disent à la tienne quand ils sont échoués. Même s'ils ont la haine, ils peuvent peuvent plus bouger. C'est pire que des chaînes, leurs ailes sont niquées. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les oiseaux à la plaine, y'en a plus tellement. Quand y'en a un qui traîne, il reste pas longtemps. Ils chantent à la prochaine, et s'envolent en riant. Quand je dis à la tienne, j'y pense tout le temps.
Merci l'huile d'olive, monsieur. 10 euros.
Il était cadeau.
Cadeau, mon Dieu. Je croyais que ça existe, cadeau, ça.
On va tailler les mots.
On est de retour. Vous êtes toujours sur le Cadu Info du lundi. Et vous venez d'écouter Y-Star, les fracas de la plaine. On va enchaîner au national pour parler de la grève des femmes de ménage du parc Hyatt.
Alors, le parc Hyatt, c'est un hôtel, en fait, qui fait partie d'une chaîne mondiale d'un grand groupe qui possède à lui tout seul plus de 700 hôtels et qui est dirigé par un grand magnat de la finance américaine qui, enfin, est suffisamment riche et puissant pour influencer, comme certains articles de la presse, dont Forbes, enfin, dont notamment des articles de capitalisme nous le confirment, qu'il est suffisamment puissant pour influencer sur l'élection américaine, carrément. Donc, voilà à qui ça vont s'affronter. À peine une petite centaine de personnes, en fait, qui travaillent dans cet hôtel à Parisien et qui, pour la plupart, c'est des femmes de chambre, étaient employées, enfin, sont toujours employées, par un sous-traitant. Et alors qu'elles représentent, en fait, la grande majorité du travail qui est fait dans l'hôtellerie, comme on peut s'en douter, qui est donc le nettoyage régulier de l'accompagnement, l'accueil des touristes qui passent. Et donc, cette petite centaine de personnes est rentrée en grève à partir du 25 septembre dernier pour demander pour les travailleurs en interne des revalorisations salariales et pour les personnes qui ne travaillaient pas pour l'entreprise directement et pour ce sous-traitant qui pouvait du jour au lendemain les envoyer sur n'importe quel autre hôtel où ils avaient des contrats, avaient des conditions salariales et d'embauche absolument dégueulasses. Bah, elle demande simplement à ce que, comme dans tous les autres hôtels du groupe, elle soit embauchée directement pour pouvoir profiter de tous les avantages sociaux et légaux qui se rattachent à cela. Et notamment le fait aussi d'être sûr de pouvoir rester dans cet hôtel, de ne pas être trimballé de droite à gauche, avoir des véritables contrats, et aussi pour certains d'avoir accès à une régularisation par le travail qui est permis donc au bout de quelques années. Donc, parce qu'il faut quand même rappeler que cet hôtel a gagné sa 5e étoile en 2009, donc grâce au travail acharné de tout ce personnel de ménage, et que, en échange, il n'y a eu absolument aucune contrepartie par rapport à ses salariés, au contraire. Donc, sa lutte a commencé le 25 septembre, elle continue tous les jours par une occupation notamment de l'espace public devant le bâtiment pour se faire entendre des voisins et de tous les touristes qui passent dans ce très somptueux et très richissime 2e arrondissement parisien. Et cette lutte continue, elle s'est fait très violemment réprimer au bout d'une quinzaine de jours par l'envoi des forces de l'ordre et par l'envoi de vigiles privés qui ont carrément envoyé certaines des personnes qui étaient devant à l'hôpital. Mais les camarades sur place n'ont pas lâché, soutenus majoritairement par la CGT du commerce et la CGT en général, elles continuent. Et là, on en est au 45e jour de grève où, enfin, les prémices en fait d'une solution et d'un heureux événement commencent à arriver. La direction, au bout de 45 jours, avec une perte notamment financière assez importante, vu que plus de 70% des chambres ne sont pas utilisées, s'est dit qu'il était peut-être enfin temps d'accepter de discuter, et des premières solutions ont été proposées. Donc, comme à leur habitude, dans toute forme de négociation, les premières propositions des patrons sont totalement insultantes. On parle de seulement une quinzaine d'intégrations de femmes de chambre sur 80 dans d'autres hôtels du groupe en général, et une simple assurance d'un maintien du contrat pour 3 ans par le sous-traitant pour toutes les autres. Donc, évidemment, j'ai pas vu encore le résultat de l'AG, mais on peut logiquement s'attendre à ce que la grève soit reconduite parce que ces conditions sont totalement inadmissibles. Et donc, en soutien à ça, on voudrait simplement rappeler qu'il existe sur le pot commun une caisse de soutien. Vous pourrez trouver assez facilement sur internet, qui s'appelle Soutien aux grévistes de l'hôtel Parc Hyatt Vendôme, et qui permet en fait de redistribuer à toutes les grévistes un peu d'argent pour pouvoir continuer à nourrir et à vivre, parce que on le rappelle, elles habitent en région parisienne et que c'est la ville est loin d'être gratuite dans ces coins-là. Et voilà.
D'accord, très bien. On en est où ? On va savoir maintenant un peu ce que Macron a dit sur Pétain.
Eh oui, car toute la semaine dernière, et particulièrement hier, Macron et sa bande ont commémoré le centenaire de l'armistice de 1918. Le 11 novembre 1918, en effet, l'armistice mettait temporairement fin à la prétendue Grande Guerre, à 4 ans de tueries qui servirent les intérêts concurrents des bourgeoisies et noblesses impérialistes occidentales. Alors que le souvenir de cette boucherie donnerait plutôt envie de brûler des drapeaux tricolores, entre autres, et d'abolir l'armée, les commémorations et flonflons devant les monuments aux morts se sont, cette année encore, plutôt faits à grands coups de drapeaux pavoisants, de cérémonies aux invalides, ainsi que d'exaltations mortifères du patriotisme, cette idéologie qui dut, il y a 100 ans, justifier l'envoi au casse-pipe de 14 millions de pauvres gars. La particularité des commémorations, cette année, outre qu'il s'agissait du centenaire de l'armistice, a résidé dans l'invocation d'un invité surprise, Philippe Pétain, de son état général en 1418, puis maréchal, puis chef du régime de Vichy et maître d'œuvre de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Cette invocation a d'abord été le fait de l'état-major de l'armée française. Ce dernier a en effet proposé que lors de la cérémonie d'hommage aux généraux et maréchaux de 14-18 qui s'est tenue le 10 novembre aux Invalides, ne soit pas seulement honoré, comme à l'accoutumée, Foch, Joffre et autres vieilles badernes, mais aussi Pétain. Cela en dit long sur l'armée française, son état-major et les tendances politiques réactionnaires qui y prédominent, qu'elles soient vichistes, monarchistes ou napoléoniennes, toutes les familles de l'extrême droite y étant dignement représentées. En effet, vouloir faire de Pétain une gloire nationale à partir du rôle qu'il aurait joué en 14-18, c'est un vieux truc de l'extrême droite, par exemple de l'Action française, elle qui placarde dans les rues de son fief d'Ainay des niaiseries abjectes comme Philippe Pétain, héros de Verdun, ou encore justice pour le maréchal. Après tout, l'arrivée de Pétain au pouvoir après la débâcle de 1940 n'avait-elle pas été qualifiée de divine surprise par Charles Maurras, le fondateur de l'Action française ? Ce qui est plus original, cette année, c'est que l'hommage à Pétain n'est pas seulement venu de l'extrême droite, mais aussi de Macron lui-même. En effet, alors qu'on l'interrogeait sur ce programme des commémorations aux Invalides, mercredi dernier, Macron a jugé, entre guillemets, légitime qu'un hommage à Pétain ait lieu, avant d'ajouter, je le cite, « Le maréchal Pétain a été aussi, pendant la Première Guerre mondiale, un grand soldat, même s'il a ensuite conduit des choix funestes durant la Deuxième. » Fin de citation. Devant le tollé suscité, l'Élysée a ensuite rétro-pédalé et Pétain a disparu de la liste des gradés commémorés aux Invalides. Cependant, cette saillie de Macron n'était pas qu'un accident de communication, puisque, pour justifier son chef, son laquais, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a tenu ensuite exactement les mêmes propos, soutenant que, je le cite, « Pétain a servi la patrie en 14 et l'a trahi en 40. Sa gloire à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. » Macron lui-même en a enfin remis une couche, ajoutant que « l'humaine nature est complexe et que Pétain aurait bien eu une part glorieuse ». Alors, la complexité consisterait, semble-t-il, à oublier que Pétain a instigé la collaboration avec les nazis, a été le fondateur du régime de Vichy, qu'il a dirigé la contribution de la France à l'arrestation et à la déportation des juifs et des juifs, des homos, des communistes, des résistantes et des résistants, et qu'il a organisé un régime profondément réactionnaire qui voulait, contre l'héritage du Front populaire, régénérer la France par un retour à la terre et au catholicisme, au saine valeur éternelle du patriarcat plouc et bourgeois le plus rance. Mais venons-en à l'aspect, donc complexe, de l'humaine nature, comme nous y invite Macron, et à la face prétendument glorieuse de Pétain, comme si son antisémitisme et sa collaboration ne suffisaient pas à le disqualifier. Cette face prétendument glorieuse, c'est celle du grand soldat, du vainqueur de Verdun qui serait responsable de cette prétendue victoire de 1916. C'est le mythe du héros de Verdun. Ce Pétain, grand soldat, Connor Macron, il s'agit d'un mythe. D'abord, comme Pétain, en 14-18, il faudrait le rappeler, il n'était pas soldat. Il était colonel, puis général. Pétain, il n'a pas fait 14-18 dans les tranchées avec un fusil à la main. Il l'a fait à l'arrière des lignes, en donnant des ordres qui envoyaient les gars des tranchées se faire massacrer. Alors d'emblée, il faut faire gaffe à cette métonymie qui fait de tout militaire un soldat et confère ainsi à Pétain cette aura de courage et de virilité. Pétain, c'était pas un soldat, c'était un planqué. Pétain, grand soldat, Pétain, héros de Verdun, c'est ensuite un mythe, car cette représentation se fonde sur une image aristocratique de la guerre qui serait menée et faite par l'état-major. Pour une victoire, il ne faudrait pas rendre hommage à la troupe, mais au génie stratégique de généraux comme Joffre, comme Pétain, comme Foch, comme si la guerre n'était qu'une partie d'échecs et n'impliquait pas un terrain ni une masse de gonzes qui l'occupent et s'y font trucider. Enfin, même si l'on veut sacrifier au jeu des prétendus grands hommes, il convient de rappeler que l'image de Pétain en héros de Verdun a été une légende forgée par la presse et la classe politique pendant la guerre pour donner un héros à l'opinion publique et ainsi préparer le remplacement de Joffre puis de Nivelle à la tête du commandement de l'armée française. La mise en avant du rôle de Pétain à Verdun a ainsi été largement surévalué par le bourrage de crâne, alors que Pétain n'avait pris le commandement de l'armée de Verdun que lorsque la situation avait déjà été rétablie sous le commandement de Castelnau. Puis Pétain n'est resté à ce poste que 2 mois avant d'être remplacé par Nivelle pendant les 7 mois et demi suivants et donc lors de la prétendue victoire française. Alors maintenant, si cette histoire de Pétain, héros de Verdun, est un tissu de conneries, et surtout un tissu de conneries qui plaît surtout aux faf, pourquoi Macron a-t-il lancé ça, en dehors de son amour pour les tissus de conneries? Est-ce que Macron a voulu ratisser large à l'extrême droite en préparation des élections européennes? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que Macron est sincère dans son idéologie qui penche quand même drôlement vers l'extrême droite? Ce n'est pas à exclure, car ce n'est pas la première fois qu'il exprime des préférences politiques nettement réactionnaires. Déjà, lorsqu'il était ministre de l'économie, il avait affiché sa nostalgie pour la monarchie, faisant du roi le grand absent de la politique française. Mais finalement, la question est moins de savoir ce que pense l'individu Macron que de se rendre compte à quel point ce type de position dans la bouche d'un président est symptomatique de l'esprit du temps, c'est-à-dire de la tendance politique actuelle à la fascisation, en France comme plus généralement dans le monde. La réhabilitation de vieilles merdes du passé, que ce soit Pétain en France par Macron et ses larbins, ou de la dictature militaire par Bolsonaro au Brésil, tout cela est seulement l'indice de la tendance de plus en plus autoritaire de nombre de régimes actuels. Or, cette fascisation prend 2 visages. Soit elle prend le visage explicite de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, comme avec Bolsonaro au Brésil ou encore Orban en Hongrie. Soit elle prend le visage plus avenant de la droite traditionnelle, bourgeoise et autoproclamée démocrate, comme c'est le cas en France avec Macron. Mais l'essai de Macron sur Pétain, comme la réalité de sa politique répressive, raciste et antisociale, nous le rappelle. L'extrême droite n'a pas besoin d'être au pouvoir pour qu'une bonne partie de son programme soit appliquée. En France, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est par la démocratie bourgeoise que passe le fascisme. Enfin, la sortie de Macron sur Pétain témoigne d'une double lecture de l'histoire, permettant soit de réhabiliter une ordure antisémite comme Pétain, soit de ne pas déboulonner la sacralité d'autres figures. Il s'agit en fait d'une constante du rapport de la République française à l'histoire de France, élevée au rang de roman national et glorifiée comme une suite de grands hommes ayant œuvré pour la liberté et la gloire de la France. Il en va ainsi d'un Colbert qui a en France ses statues, qui donne son nom à des rues et à des écoles, alors qu'il fut le rédacteur du Code noir qui organisait l'esclavage. L'histoire officielle, le roman national, c'est une légende dorée écrite par les dominants. Finalement, ce n'est qu'une ordure de plus qu'a voulu y faire entrer Macron. Sa saillie répugnante, ainsi que ses ridicules et méprisants appels à faire preuve de complexité, témoignent de ce que ce grand mythe qu'est le roman national se fonde sur l'effacement, voire sur la justification des oppressions et des crimes commises par l'État français.
Ouais, et puis juste pour rajouter, Pétain, c'est aussi celui qui a fait tuer, qui a fait condamner à mort le plus de militaires français pendant la Première Guerre mondiale, quand il a pris le pouvoir au sein de l'armée française. Hein. Tous ceux qui voulaient fuir les tranchées, fuir la guerre, les pauvres gars qui étaient en train de se faire défoncer, qui tombaient malades comme des chiens, etc., qui se tiraient une balle dans le pied ou dans la main pour partir, et ben, en fait, ils se faisaient condamner à mort par Philippe Pétain.
Ouais, alors comme on est un tout petit peu à la bourre, parce qu'on a pris l'antenne à la bourre aussi, on va aller très vite.
Ouais.
On va quand même parler rapidement des licenciements à Ryanair.
Très vite, je vais gagner 30 secondes, promis. Alors Ryanair donc, a licencié 6 employés après la publication d'une photo. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Donc dans la nuit du 14 octobre, une intempérie a bloqué le trafic aérien, ce qui a obligé 24 salariés de la compagnie Ryanair à passer la nuit à Malaga. Donc c'est une ville dans le sud de l'Espagne. Mais la direction a obligé ses salariés à rester à l'aéroport toute la nuit, se partageant une pièce contenant seulement 8 chaises pour 24 personnes, 0 matelas et rien d'autre. Pour dénoncer la situation, certains d'entre eux ont fait une petite mise en scène en se couchant à même le sol et faisant semblant de dormir. Ils ont publié ça sur les réseaux sociaux, hein, afin d'interpeller leur direction. Alors le directeur a réagi direct, hein, en se défendant et affirmant, attention, que tous les hôtels de la ville de Malaga étaient complets cette nuit-là. C'est évident qu'il a lui-même appelé tous les hôtels de Malaga pour vérifier. Alors le syndicat espagnol, donc STICPLA, qui est un syndicat espagnol dans les aéroports, hein, la contrée directe, hein, nous savons tous que Malaga et toute la Costa del Sol ont une offre de logement énorme, surtout en octobre, pendant la basse saison. Donc c'est mort ce que tu as dit, monsieur le directeur. Alors en répression, la direction a décidé de licencier les 6 salariés allongés au sol sur la photo pour, attention, faute grave. Pour rappel, hein, Ryanair gagne des milliards d'euros tous les ans. C'est pas la première fois que la direction refuse de loger décemment ses employés. Plusieurs rapports et témoignages dénoncent des conditions de travail précaires, avec des cadences très soutenues, ou même encore l'interdiction de se reposer entre chaque vol. Ce nouveau scandale montre encore une fois le caractère dégueulasse de Ryanair. Le contexte actuel provoque d'ailleurs régulièrement la colère des salariés qui ont déclenché plusieurs grèves à l'échelle européenne, hein, afin de faire entendre leur voix face aux géants du vol low cost Ryanair.
Ensuite, et très rapidement aussi, mais on va quand même l'écouter, on va parler un peu, enfin, on va écouter un son qui a été enregistré au procès des 7 personnes à Gap qui avaient été accusées d'aide au passage en bande organisée pour avoir participé à une marche, justement en compagnie de quelques migrants. Et juste pour rappel, la marche avait eu lieu au lendemain d'une mobilisation de générations identitaires qui voulaient bloquer eux-mêmes la frontière franco-italienne. À ce procès, il y avait des copines et elles en ont profité pour interviewer quelqu'un qui est de Clavière et prendre un peu des nouvelles de la situation depuis l'expulsion du squat chez Jésus. Merci. Oui, alors bonjour. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu qu'est-ce qui se passe, où on est, qu'est-ce qu'on fait
Alors, bah, du coup, on est devant le Conseil général des Hautes-Alpes à Gap. Nous sommes le 8 novembre et on devrait être devant le tribunal, mais on n'est pas devant le tribunal. C'est-à-dire qu'on n'est pas, à mon sens, du bon côté de la place, mais on va avoir toute la journée pour se déplacer. Du coup, on est au procès des 3 plus 4 de Briançon, soit 7 potes, 7 personnes qui suite à la marche spontanée du 22 avril qui était née en fait en réaction à la militarisation forte de la frontière du Mont-Genèvre à cette période-là. C'est-à-dire que il y avait des militaires et des gendarmes qui se livraient en fait à une vraie chasse aux migrants sur les sentiers, et la frontière en fait pour une fois était complètement bloquée. D'habitude c'est une sorte de passoire avec des violences qui sont moins systématiques en fait, les gens arrivent à passer. Et voilà, autour du 22 avril quoi, il y a eu 3 jours où ça a été complètement bloqué. Et les personnes, en fait, au bout d'un moment, elles ont eu marre et elles ont choisi de passer la frontière. Et plusieurs centaines de personnes, du coup, ont marché, en fait, de Clavière jusqu'à Briançon, en passant tranquillement les 2 barrages de police qu'on a rencontrés. Et voilà, du coup, suite à ça, il y a 9 personnes qui ont été arrêtées tout de suite après la manifestation, 6 qui avaient été relâchées pratiquement immédiatement, et 3 finalement qui ont été placées en détention préventive et qui ont tout de suite en fait été accusées de favorisation à l'immigration, à l'immigration clandestine en bande organisée. Il y avait eu une première occurrence du procès le 31 mai. Mais le procès en fait avait été renvoyé parce que à ce moment-là en fait en France c'était l'examen de la constitutionnalité du délit de solidarité, enfin de l'accusation en fait de délit de solidarité par rapport au cas de Cédric Herrou. Donc même si les personnes en fait n'étaient pas forcément sensibles à cette remise en question là, ça a forcément quand même stoppé leur procès. Et du coup voilà, là on est sur le deuxième épisode et entre temps ils ont accusé aussi 4 autres personnes qui étaient présentes ce jour-là et qui donc sont aussi accusées de favorisation à l'immigration clandestine en bande organisée.
Alors, il y avait un autre son qui parlait un peu plus de la situation à la frontière, mais on est vraiment trop à la bourre. Juste pour finir sur ça, pour le procès, la circonstance aggravante de bande organisée a été levée, mais le procureur demande encore 6 mois avec sursis pour 5 d'entre eux et 12 mois, donc 4 fermes pour les 2 autres. Et on aura le rendu du jugement le 13 décembre. Rapidement, une petite info sur Bure.
Alors, toujours dans le rapide, sur Bure, simplement pour signaler qu'en fait, vient d'apparaître, il y avait un ancien site qui s'appelait VMC Camp qui permettait de donner toutes les infos autour de Bure. Ce site était totalement mort. Et donc, les copains ont pris le temps de reconstruire un site beaucoup plus solide qui s'appelle burburbure.info. Et donc, voilà, oui, c'est la grande trouvaille, ça. Au moins, au final, ça finit par rentrer. Ce site, donc, a pour objectif de parler des luttes antinucléaires en général et aussi de parler notamment du territoire de Bure et de la Meuse pour essayer de le faire vivre. Donc comme tout, beaucoup d'autres sites comme Rébellion et beaucoup d'autres sites du réseau, la publication est collective et donc vous pouvez proposer pas tout ce que vous voulez. Il a pour but de présenter, il y a beaucoup d'analyses, de témoignages, de radios et tous les militants locaux et tous les comités de lutte locaux sont invités à consulter et à publier dessus. Donc je rappelle, l'adresse est burburbure.info.
Très bien. Et peut-être des petites nouvelles d'un facteur pour notre seul sujet au local.
Alors des nouvelles